ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. En direct aujourd'hui, le 30 septembre 2014, nous recevrons pendant 60 minutes Madame Monique Lefebvre. Alors, elle est depuis 1981. Monique Lefebvre dirige Altergo, auparavant connue sous le nom de l'Association régionale pour le loisir des personnes handicapées de l'île de Montréal. La mission de l'organisme consiste à soutenir l'inclusion des personnes ayant une limitation fonctionnelle par l'abolition des obstacles à la pratique du loisir, du sport et de la culture. Et Madame Lefebvre, en novembre 2013, eh bien, s'est vue remettre la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec pour son implication et son travail dans la promotion depuis plus de 30 ans à l'inclusion sociale par le loisir des citoyens ayant une limitation fonctionnelle et de l'accessibilité universelle. Madame Lefebvre, ça fait très, très, très plaisir de vous accueillir en direct en studio aujourd'hui. On passe une heure sur vous. Vous savez que les gens qui font la différence, ce sont des gens comme vous qui, dans la société, par leur pratique, font en sorte que la société est meilleure. Quand je vous dis en 2014, vous vous sentez comment?
Je me sens très bien. Puis ce matin, je me sens encore plus stimulée sur l'importance du travail que je fais, surtout avec la nouvelle qui est sortie des coupures sur les personnes qui ont une déficience intellectuelle, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Ce n'est pas directement dans le monde du sport et loisirs, mais on est une famille. Et quand on voit des coupures comme celle-là qui touchent les plus démunis, il y a un sentiment d'injustice qui remonte à la surface. Alors je me sens un peu combative pour dire ben c'est un geste d'injustice puis je ne pouvais pas faire autrement que de le souligner en début d'émission parce que nous sommes présents dans le milieu pour défendre les droits des personnes qui sont peut-être moins bien placées pour défendre elles-mêmes leurs besoins, bien qu'on tente de plus en plus de les former, de leur donner accès aux droits de parole et faire qu'elles puissent s'exprimer. Parce que si on les voit en entrevue puis qu'elles puissent s'expliquer, c'est l'importance des revenus qui était minime, mais tellement important pour leur estime de soi. On parle de 4,30 $ par jour pour un travail qui est fait, qui contribue à leur inclusion sociale. Alors, c'est sûr que j'ai un sentiment d'injustice aujourd'hui à l'intérieur de moi.
Tout à fait. Puis, on en parle partout dans les journaux. Ça serait vraiment difficile. Puis moi, je suis allergique à l'injustice, à toute forme, finalement, d'injustice. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que, évidemment, on envoie un message, là.
Hein? Oui, absolument.
On envoie un message de dire... Est-ce qu'on envoie le message de dire que ces personnes-là n'ont pas d'importance?
Bien, on voit aussi, même souvent dans les chroniques, les gens disent on touche aux plus démunis, puis c'est ce qui me touche le plus. On touche à des gens qui sont moins bien placés pour se défendre elles-mêmes puis contribuer. C'est sûr que la Fédération des médecins spécialisés a de l'argent pour embaucher des gens qui font du lobby puis qui vont défendre leur intérêt chez les personnes qui ont des limitations. Les budgets des organismes de défense de droits, des organismes comme nous, ne sont pas énormes et on n'a pas toujours les budgets pour faire les représentations requises. On a besoin d'une équité et que ça soit une valeur de notre société. Puis quand on touche aux personnes qui ont des limitations, comme on vient de toucher avec les projets de coupure, ce n'est pas encore confirmé. Peut-être que c'est un ballon qui est lancé, mais je pense que si c'est un ballon qui est lancé, il faut répondre haut et fort que ce n'est pas ces personnes-là qu'il faut toucher. Il faut les encourager, il faut leur en donner plus.
Qu'est-ce que ça fait comme émotion, cette nouvelle-là, et qu'est-ce que ça fait concrètement? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce que, on a parlé de l'injustice, et ça, elle est partagée par tout le monde, par tous les citoyens, par nos auditeurs et auditrices. Qu'est-ce que ça fait?
Ça À part la révolte, là, on va l'assumer parce que moi, j'ai entendu ça hier soir aux nouvelles. Je suis certaine que le milieu va s'organiser. Je vous remercie de la tribune que vous me donnez pour en parler parce que plus on sera de personnes à dénoncer puis à souligner comment c'est important d'aider ces personnes-là. Mm-hmm. Parce que tu sais, on voit qu'ils sont démunis dans les médias, mais sont démunis financièrement, mais ne sont pas démunis de potentiel. C'est des gens qui sont capables, qui ont besoin d'avoir une opportunité. Et par exemple, ce qui sort aux nouvelles avec les Compagnons de Montréal, c'est une opportunité pour les gens qui ont une limitation de sortir de chez elles, d'avoir un travail, d'avoir une estime de soi. Puis c'est là que ça grandit. Tu te fais un réseau d'amis, tu vas ailleurs, tu montes ton potentiel, tu fais peut-être de la culture, tu démontres tes talents artistiques, puis les gens ne te voient pas comme quelqu'un à charge, mais quelqu'un qui contribue différemment à la société. Puis ça, c'est mon travail, c'est ma raison de vivre, ma mission, c'est de montrer aux gens que tu as une limitation. Ça ne veut pas dire que tu es rien, tu as une limitation, mais tu es un individu à part entière.
Et tu n'es pas qu'une limitation.
Et voilà, puis je trouve que souvent, quand on voit les personnes qui ont des limitations, on voit la limitation et non pas le potentiel.
Exactement, on oublie l'individu finalement.
Oui.
On se concentre sur la limitation, puis on oublie que c'est un être humain qui a des besoins, qui a des rêves, qui a envie de les réaliser, comme tout le monde.
Alors, il ne faut pas oublier, quand on dit on touche les plus démunis, on touche les plus démunis financièrement beaucoup.
Oui. Vous avez, parce que on vous sent, et de toute façon, votre pratique, vous n'avez pas besoin d'avoir eu un prix. La femme que vous êtes, ce que vous faites depuis 30 ans, vous avez été inspirée par vos parents.
Exactement. Mes parents sont des personnes qui ont des limitations, des personnes très déterminées. Je le vois plus aujourd'hui avec le recul. Quand tu es petit, tes projets, tes parents, tu apprécies moins ces valeurs-là. Mais j'ai des parents qui ont toujours démontré beaucoup d'engagement social et ils m'ont transmis la valeur et l'importance et aussi ce que tu récoltes quand tu donnes. Parce que pour moi, j'ai donné beaucoup pendant ces années-là, mais quand j'ai contribué, c'était pas pour recevoir une médaille, c'est sûr. C'était pour contribuer, pour changer les choses. Mm-hmm. Alors, ce sont eux qui m'ont appris que quand tu avais une limitation, tu pouvais. Parce que ma mère, elle me disait le premier mot qu'elle a prononcé quand elle était petite, c'était « capable ». Oui, je suis capable, même j'ai juste un bras, je suis capable de tricoter, d'avoir des enfants, de
Alors c'est
faire
ça,
de la
je voulais
couture.
Savoir si c'est... Bon, on rentre dans votre intimité, mais pour l'émission, c'est important de savoir pour nous qu'est-ce qu'avaient vos parents. Donc, alors vous dites votre mère et
Ma mère,
votre...
elle avait juste un bras, puis c'est d'accord. De naissance. Elle est née en 1931, alors c'était à l'époque un grand handicap. Aujourd'hui, c'est un handicap qui est plus léger. Mon père a eu la polio à sa date anniversaire à l'âge de 2 ans. Alors, il avait une jambe plus petite que l'autre et il boitait quand il marchait, mais il pouvait marcher. Alors, tous les deux...
Avaient quelque chose, finalement.
Oui.
Et le mot « capable » a été prononcé.
Oui, ben pour ma mère, parce que pour ma grand-mère, c'est-à-dire elle avait 7 enfants, il fallait que cet enfant-là, qui était Jacqueline, elle fasse comme les autres. Ma grand-mère, elle disait pas, ben parce que tu touches un bras, tu ne feras pas comme les autres, il faut que tu fasses ton chemin. Fait qu'elle-même, sa valeur, c'est « je suis capable ». Puis quand tu me dis « je suis pas capable », c'est un défi de plus pour le faire. C'est comme ça qu'elle a tricoté, c'est comme ça qu'elle a fait de la couture, du dessin. C'est vraiment une femme qui va... de l'avant. Puis mon père aussi, c'était la même chose. Des gens qui se sont dit « oui, on est différents, mais on est capable. » Puis je pense que c'est le message qu'ils lancent. Puis on lance aussi à l'ensemble de la société.
De la société.
Oui, que tu peux faire des choses. Puis eux, ils nous ont beaucoup influencés. Et ils ont été influencés par des gens qui nous ont ouvert la porte, entre autres Mme Lucie Bruno, qui a aidé des personnes qui allaient à l'école Victor Doré à développer des activités de loisirs, à pouvoir se rencontrer parce que les gens étaient à l'extérieur de leur milieu de vie. Quand tu vas dans une école spécialisée, tu n'es pas proche de tes petits voisins. Tu te retrouves, tu prends un transport.
Puis souvent,
ce
n'est pas
loin.
Le même quartier. Hein?
Absolument.
Alors, donc, finalement, les amis de quartier ne peuvent pas s'en faire parce que le jour, ils sont dans une école spécialisée qui est loin, qui n'a rien à voir. Et le soir, ils se retrouvent seuls, finalement.
Ouais. Alors, eux, ils ont décidé d'organiser du loisir pour les personnes handicapées. Alors, eux-mêmes handicapés se sont dit, ben, on est capable de faire quelque chose. Puis, ils ont mis sur pied une association qui existe encore aujourd'hui qui s'appelle les Loisirs Le Grillon. Et quand ils ont dépassé les 65 ans, ils ont formé le club Le Grillon pour les années. Alors, ils ont toujours été très actifs, mobilisés. Puis j'ai vu la valeur du don. Quand tu donnes, tu reçois beaucoup
c'est
dans
ça,
la vie.
Vous, on revient un petit peu en arrière. Vous, ayant vos deux parents avec des limitations, petite fille? Est-ce qu'il y a eu des souffrances? Est-ce qu'il y a eu des regards, des injustices? Est-ce que vous, bon, vous aviez deux exemples de force autour de vous, de mère qui dit « je suis capable », votre père aussi. Mais est-ce qu'il y a eu, comment vous viviez ça, vous?
Ouais. Quand t'es jeune, tu vois pas nécessairement beaucoup ça. C'est un petit peu plus à l'adolescence où c'est le regard des gens sur mes parents que je trouvais injuste. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'allais avec ma mère à l'épicerie, puis il y a des enfants qui venaient lui reporter des 10 sous, des 25 sous, parce qu'elle avait juste un bras, puis le parent donnait, ben va prendre cet argent-là, va donner ça à la madame, elle fait pitié. Ça, j'ai entendu ça quand j'allais faire l'épicerie. Et mon père, c'était un sportif. Alors, il faisait de l'athlétisme, faisait des lancers de javelot, du disque, faisait du basketball, mais quand il faisait ses lancers, il fallait que quelqu'un aille chercher le javelot. Alors nous, les enfants, on allait chercher le javelot puis on lui rapportait. Et parce qu'il était assis, il faisait ça en fauteuil roulant. Puis là, les gens venaient regarder puis disaient « Oh, wow, c'est donc super! » Alors j'ai vraiment eu la confrontation de « Oui, tu peux avoir le regard des gens qui ont pitié, comme tu peux avoir le regard admiratif. » Et c'est ce qui m'a impressionnée, c'est ce que j'ai gardé dans mon cœur, le regard d'injustice que les gens donnaient sur mes parents.
Mais au niveau de la pitié, est-ce que vous répliquiez, est-ce que vous disiez, vous aviez envie de dire, ben non, ma mère, elle a juste, il manque juste un bras, mais elle est là, sa tête est là, c'est pas une mendiante dans la rue.
Ma mère, elle a une très, très grande qualité. C'est une femme qui adore être en relation avec les gens. Et elle prenait les enfants, puis elle leur parlait. Pourquoi tu me donnes ça? Puis là, souvent, c'était « Mais madame, pourquoi tu as juste un bras? » Ben, elle disait « C'est parce que le bon Dieu a décidé que je n'avais pas besoin de deux. » Alors, elle sensibilisait le jeune, puis elle lui transmettait un message avec son grand sourire, puis le jeune repartait. C'est sûr que pour nous, bon, au début, on trouvait ça dur, sentiment de pitié. Mais j'ai vu quelqu'un qui savait sensibiliser, puis quand tu sais sensibiliser, tu touches la personne, puis tu sens que tu t'as fait une différence. Mm-hmm. Et je pense que c'est ce que ça a semé dans mon cœur aujourd'hui. Je suis une personne qui essaye de sensibiliser plutôt que de confronter puis de dénoncer.
C'est peut-être. Ça, de sensibiliser. Ouais. D'ailleurs, vous avez cette sensibilité.
Merci.
Là, tout à fait. Alors, bon, vous savez que vous choisissez les chansons à l'émission.
Oui.
Alors, vous avez choisi Richard Séguin, « Sous les cheminées ». Pourquoi?
Oui. Richard Séguin, je suis une fille de l'Est. Alors, Richard Séguin, c'est quelqu'un qui a vécu à Pointe-aux-Trembles.
Tout à fait.
Et Richard Séguin vit aussi dans un petit village à Saint-Venant-de-Paquette. Et c'est le village où mon arrière-grand-mère est née et a été la première femme à dormir à Saint-Venant-de-Paquette.
Alors, à dormir, là?
Oui. Alors, puis juste, ça s'appelle Saint-Venant-de-Paquette parce que des premiers arrivants sont bien sûr des Paquettes, mais ça fait partie de sa famille. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est un hommage à Richard Séguin, pour mon arrière-grand-mère, puis parce que c'est un gars de l'Est et que j'ai vécu avec le feu des cheminées que je voyais de chez moi dans l'Est. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi cette magnifique chanson.
Une belle page de souvenirs, on l'écoute.
Merci.
Premier amour, premier baiser, le vent chaud du mois de mai. J'entendais tes rires courir dans l'air figé de l'été suffocant qui avait tout son temps. Ta blouse entr'ouverte, mon oreille sur ton cœur, couché dans le champ, on avait fait le serment de ne jamais vieillir, de ne jamais mourir. Sous les cheminées, celle qui brûle jour et nuit, sous les cheminées, celle qui brûle jour et nuit. Le fleuve était caché comme il a toujours été. Devant le restaurant, on traînait nos 15 ans. On regardait passer les cargos étrangers, baptisés de surnoms qu'on leur avait donnés, chargés d'horizons de nos rêves déchaînés, chargés de soirées sans savoir où aller. Quand les yeux se ferment en quittant le rivage, quand les yeux se ferment pour garder cette image. Sous les cheminées, celle qui brûle jour et nuit, sous les cheminées, ce qui brûle jour et nuit. un pays encore à genoux, des noms de rue empruntés un peu partout. Avenue Broadway, par choc chromé, gang de quartier, vent de liberté. Cinéma qui se mire dans les flaques d'eau, qu'éclabousse aussitôt les rêves brisés. Semaine rapiécée en robe du dimanche, qui refait le trajet, protégé par des anges. Sous les cheminées, celle qui brûle jour et nuit. Sous les cheminées, celle qui brûle jour et nuit. Le soleil s'endort sur la lignée de wagons. Bien regardé, rien n'a vraiment changé. Derrière la fumée, maison d'ouvriers, les rêves oubliés, l'autre côté du fossé. Et le vent murmure entre les peupliers, le secret des mots à faire à la vie. Ne jamais vieillir, ne jamais mourir, même s'il fallait y laisser sa peau. Où sous les cheminées, celle qui brûle jour et nuit. Sous les cheminées, celle qui brûle jour et nuit.
Alors, on est en compagnie de Monique Lefebvre, directrice d'Altergo. Nous sommes rendus à la petite fille qui regardait ses parents, qui ne voulait pas trop confronter, parce qu'il y avait comme deux exemples. Vous préfériez plutôt comprendre les choses, j'ai l'impression, pas confronter ce qui se passait. Est-ce que vous observiez beaucoup vos parents dans leur attitude?
Oui, parce qu'en plus, mes parents avaient des amis qui étaient handicapés. Alors, j'ai côtoyé, mais on appelait ça autrefois nos oncles et nos tantes, mais ce n'était pas nos vrais oncles et tantes, c'est les amis de tes parents.
Alors, mais qui sont là souvent.
Oui, et puis ils venaient à la maison. Alors, j'ai eu des images de personnes qui ont des limitations, qui ont une joie de vivre. Puis même, elles me disaient, nous, quand on va, par exemple, au restaurant, ils sont plusieurs personnes en fauteuil, un avec ses béquilles, puis les gens les regardent toujours puis disent, mon Dieu, qu'ils ont l'air d'avoir du plaisir, ces gens-là. Parce que quand tu deviens handicapé ou tu es handicapé, il vaut mieux avoir un sens de l'humour assez bien développé, parce que sinon, tu trouves la vie difficile.
Un sens de la dérision aussi.
Oui, alors eux, ils s'amusaient. Donc, les modèles que j'ai eus, c'est plus des modèles de gens qui ont une joie de vivre, puis c'est des gens qui choisissent de vivre malgré la différence. Mmh. Parce que quand tu as un coup dur, souvent, tu fais un geste de résilience. Et j'étais entourée de gens qui ont fait des gestes de résilience. Pour moi, c'était d'absorber cette énergie, cette dire, ben oui, on est capable, puis on va réussir, puis on va faire notre place. Parce que, voilà, 30 ans, c'est pas comme aujourd'hui, l'inclusion sociale. On avait encore beaucoup de chemin à faire. Alors, je pense qu'ils m'ont démontré leur capacité. J'ai vu leur potentiel, puis je me suis dit, ben, moi, je vais être porteuse de cette information-là, de cette nouvelle que, oui, on peut regarder ces gens-là différemment, pas par la pitié, mais par le bon côté. Et j'ai appris que dans la vie, il y a toujours deux côtés à une médaille. Mm-hmm. Alors, oui. Bon, ben, tu choisis de regarder le côté que tu veux. J'ai choisi un côté heureux.
Le côté positif, puis il y avait bien du fun là. Oui, c'est ce que j'ai l'impression que c'est le fun.
Oui, puis en plus, c'est des gens qui organisaient du loisir et du sport. Alors, quand tu es dans le loisir et le sport, c'est vraiment un endroit où tu es en temps libre, tu es relax, c'est toi qui l'as choisi, c'est pour ça que tu es là. Alors, voilà.
Vos rêves, étant toute petite, est-ce que à l'école ça fonctionne bien? Vous êtes studieuse, vous vous ennuyez, vous êtes comment?
Non, j'ai toujours aimé l'école. J'étais pas dans les hyper performantes, mais j'étais pas dans les moins bonnes. Là. J'étais plutôt dans la moyenne, mais avec un intérêt d'apprendre, une curiosité. J'avais la patience de lire, de regarder, de recommencer s'il fallait. J'ai toujours apprécié le développement des connaissances. J'étais curieuse.
OK, donc la grande curiosité, puis ça va bien, vous ennuyez pas l'école, sur les bancs d'école.
Non.
Une petite idée de ce que vous voulez faire étant jeune ou pas?
Pas vraiment. Non, non, j'ai cherché longtemps ce que j'allais choisir parce que j'étais déchirée par mon attirance envers le loisir et le sport. Puis j'en avais parlé avec mes parents à l'époque, puis ils m'ont dit, ben, ce serait peut-être important pour toi que tu ailles voir ailleurs, que tu fasses autre chose. Parce que, bon, tu connais pas mal de choses dans le milieu des personnes qui ont des limitations, dans le milieu du loisir. Je me suis dit, ben, pourquoi pas? Alors, j'ai regardé, j'ai choisi technique diététique.
OK.
Alors, parce que je voulais faire mon cégep pour être capable de partir en appartement puis me payer des études universitaires par la suite. Parce qu'on était 4 enfants, mes parents n'avaient pas nécessairement des gros revenus pour qu'on puisse aller à l'université. Donc, j'ai choisi technique diététique. Je suis très contente aujourd'hui parce que les saines habitudes de vie, c'est important, puis bien manger. Mais je n'ai pas travaillé dans ce domaine.
Mais vous emmerdiez!
Presque. J'ai fini mes études.
J'aimais bien. Oui. On aurait eu une caméra ici. Oui, hein, les gens auraient compris, mais dans votre
mon nom verbal.
Parce que moi, exactement, parce que vous avez dit technique diététique. Bon, c'est bon, là, mais bon, je suis contente de bien manger, mais bon, c'était pas ça.
C'était utile, mais c'était pas ma mission.
C'était pas pour vous, c'est
ça. C'était un petit parcours.
Sans dénigrer le métier, mais c'était pas pour vous.
Okay.
Mais est-ce que vous vous rendez compte rapidement que c'est pas pour vous?
Ah, écoutez, j'ai fait mon diplôme, là. J'ai fait mes 3 ans.
Ouais.
Et c'est suite à un premier... J'ai eu une entrevue, j'ai eu un emploi à l'hôpital Bellechasse, puis après j'ai appelé pour dire, écoutez, je ne me présenterai pas, puis je suis retournée aux études en loisirs.
Mais vous avez fait combien de jours à l'hôpital? Même pas?
Même pas, non.
Ah bon? Vous êtes acceptée?
Oui.
C'est...
oui, puis j'ai dit non. Tu sais, des fois, toi, à l'intérieur de toi, tu as un sentiment très fort. Tu dis non, c'est pas ma place. Okay, j'ai eu mon diplôme, je l'ai fait, j'ai réussi. Pendant que j'ai fait mon diplôme, j'ai pensé peut-être aller en service social. Puis pour toutes sortes de circonstances, je ne l'ai pas fait. Et j'ai fait la diététique. Ça m'a fait travailler beaucoup le sens de l'organisation. Parce que quand tu gères une cuisine, il faut vraiment que tu sois organisé. Mm-hmm. Ça m'a donné quand même des bons fondements. Et je suis contente de l'avoir faite. Mais mon premier travail, ça c'est humoristique, parce que j'ai fini mon diplôme en 1976 et c'était les Jeux olympiques à Montréal. Donc, j'étais chargée d'une étage de casse-croûte au stade olympique pendant les Olympiques.
Okay.
Alors, plusieurs rient de moi. Il faut bien avoir étudié en diététique pour s'occuper de
casse-croûte
à Odog. Mais de faire ça aux Jeux olympiques, c'est quand même très valorisant.
Je pense que vous devez, étant curieuse comme vous l'étiez, vous regardiez comment ça se passait, les gens,
bien
l'organisation,
sûr.
Les athlètes, le non-verbal de tous ces gens-là et le verbal également.
Oui, puis Montréal était en fête.
Ah oui, complet, j'imagine.
Oui.
Trop petite pour... Trop petite, mais les souvenirs, on m'en parle et puis ça avait l'air d'être superbe.
Oui.
Donc, vous trouvez votre voix quand?
J'ai... trouver ma voie par quand j'ai commencé, j'ai fait mon diplôme en technique diététique. Tout de suite, j'ai fait un certificat en loisirs et sport et je savais que c'était dans ce milieu-là que je voulais travailler. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire des fondements pour partir un organisme de loisirs de personnes handicapées dans l'Est de Montréal parce que Centraide, à l'époque, souhaitait qu'il y ait une association qui puisse se développer. Alors, c'est différent aujourd'hui. Hein? On ne parle pas de la même culture à l'époque. On présentait des projets pour développer. Alors, j'ai parti une association à Pointe-aux-Trembles. Je suis partie avec mon bagage, rencontrer les gens du CLSC pour dire que je voudrais développer une association qui existe encore aujourd'hui. Et là, je savais que c'était dans ce milieu-là.
Mais vous auriez pu ne pas travailler avec les handicapés, les personnes handicapées.
Alors, une fois que j'ai fini mon diplôme de technique diététique et que j'ai refusé d'aller à l'hôpital Bellechasse, je savais que je voulais travailler avec les personnes handicapées. Ça, c'était clair.
Alors ça, c'était extrêmement clair dans votre tête.
Oh oui, ouais. Là, c'était, je savais que ma voix était
La lumière s'est allumée, comme on dit.
Oui, le début de ma mission, là, je savais que c'était avec ces personnes-là. J'étais bien, puis je pouvais faire la différence. Et je posais un geste social qui changeait des choses. Mm-hmm. Alors ça, je le sentais vraiment.
L'appel est venu comment?
L'appel est venu comment? Par le plaisir que ça donne. Tu sais, quand tu travailles, puis tu sens que tu es à ta place, puis tu n'as pas d'hésitation, tu te lèves facilement le matin, puis tu dis oui, c'est le temps que c'est ma place. Parce que j'avais étudié 3 ans de technique diététique, puis je savais c'est quoi pas être à sa place. Ouh, j'aimais ça, mais je sentais pas que c'était nécessairement ça que je ferais toute ma vie.
Puis à ce moment-là, ce que vous disiez, parce qu'on a parlé d'injustice tout à l'heure, ce que vous disiez, il y a trop de choses. Est-ce que tout ce qui se passait avec les personnes handicapées vous appelait à vouloir changer les choses? Est-ce que votre quotidien de voir les gens dire « Ah, ça, c'est pas normal, elle peut pas prendre le métro, elle peut... » Est-ce que ça vous donnait encore plus de vitamines pour foncer?
Oui. Bon, quand j'ai partie de l'association, c'était peut-être en 1977 à peu près. Alors là, j'embarquais dans une porte professionnelle parce qu'avant, bon, je vivais avec ma famille. Mais quand tu deviens professionnel, là, tu as des demandes de subventions à faire et tout. Et aussi, il faut se rappeler que l'Office des personnes handicapées, la loi est arrivée dans ces années-là aussi. Ouais. Il n'y avait pas encore beaucoup d'historique de défense de droits.
C'est tard quand même, hein, la loi. Je regardais ça, je me disais que c'était quand même dans les années 70.
Oui, la fin des années 70.
C'est quand même assez
78,
tard.
78, je crois. Ouais. Alors, donc, c'était pas nécessairement encore très développé chez moi, l'idée de changer les choses. Ça va arriver un petit peu plus tard dans mon parcours. Mais il a fallu quand même que je passe par certaines étapes avant de se dire, bon, la mission, oui, je voulais travailler dans le milieu du loisir et du sport. Changer les choses, ça va prendre quelques années pour que ce sentiment se développe et que je passe à l'action.
Mm-hmm. Et est-ce que vous étiez vous-même sportive à ce moment-là? Est-ce que c'était...
Oui, ben, quand t'es des parents qui sont dans le monde du loisir et du sport, puis mon père était quand même talentueux en sport.
Oui, c'est ça, vous parlez souvent de votre père. Hein?
Il nous a quand même transmis ça génétiquement. Puis même les petits-enfants disent, OK, on a notre jeune du grand-père qui est quand même bien performant dans le domaine du sport. Alors, j'ai fait toujours du sport parascolaire aussi à l'école.
Qu'est-ce que c'était comme sport?
Surtout du basketball, debout. Okay. Ben, j'appelle ça debout par rapport aux personnes qui ont des limitations. Alors, je faisais... Du volley-ball, toutes sortes d'activités. J'ai fait de l'athlétisme, du saut en hauteur. Il fallait bouger, puis on aimait bouger. Alors, il n'y a pas de problème.
Donc
c'était...
là, vous trouvez... Est-ce que je peux demander à quel âge vous aviez quand vous trouvez votre voix?
Oh. J'ai 58 ans, puis des fois, je me demande si j'ai encore ma voix.
Oui,
tu trouves une certaine voix, mais comment elle se décline? Souvent, il y a des chemins qui arrivent, puis il faut que tu fasses des choix. Uh-huh. Alors, je dirais plus dans les années 84-5, quand va avoir lieu la fondation de certains événements qu'on va parler dans quelques minutes,
j'imagine. Oui, bien sûr, on en parle.
C'est plus dans ces années-là.
D'accord. Alors, dans les années, on a parlé de la loi qui était là. Moi, je vous ai posé la question, le fait de voir des personnes handicapées, est-ce que vous vouliez changer les choses? Est-ce que ça vous donnait un peu plus de vitamines pour changer les choses? Est-ce que tout vous paraissait plus gros à partir du moment où vous aviez trouvé votre voie?
Pas nécessairement, parce que quand le parcours que j'ai fait, quand j'ai parti de l'association, est arrivé la loi, j'étais encore jeune, je voyais pas nécessairement encore dire, ben moi, qu'est-ce que je vais faire? J'avais 20 ans. Alors, qu'est-ce que tu fais à 20 ans? Des fois, tu ne sens pas que c'est aussi clair. J'avais quand même certaines pistes sur comment je voulais contribuer à la société, mais ma voix n'était vraiment pas trouvée encore.
N'est pas trouvée. On fait une pause et on revient tout de suite après.